Soyez alertes, la chronique que voici pourrait vous déranger. Tel un moustique qui pique. La chronique du moustique avec le sismologue à la retraite de l'UQAC, Rénald Duberger.
Non, mais mon lest est mon skidon.
Rénald Duberger, est-ce que ce sont des chiffres qui vous surprennent ce matin?
Quels chiffres?
Les chiffres de la statistique qu'Éric vient de mentionner.
Hausse du climato-sceptisme, on est à plus de 44% au Québec.
Bon. À propos, je suppose que vous faites référence à l'article qui est publié dans Le Devoir.
Le baromètre de l'action climatique soulève les contradictions des Québécois.
Oui. Moi, les chiffres que j'ai à propos de ce sondage, en fait, ce serait 17% des Québécois qui croient que le changement est naturel, 14% qui croient que le changement climatique n'est pas prouvé. Est-ce que c'est les chiffres que vous avez?
Tout ce que je vois dans le pourcentage, c'est vraiment un 44%, une vision techno-optimiste de la lutte au changement climatique. C'est-à-dire que 44% de gens qui sont des climato-sceptismes.
Ah, c'est pas les chiffres que j'ai. Moi, les chiffres que j'ai, ça vient de m'être envoyé. C'est un article qui était publié hier dans Le Devoir. Mais c'est le résultat d'un sondage fait par un organisme qui s'appelle 1.5. Puis 1.5, ça se dit comme le média d'action climatique du Québec. En partant, c'est un organisme qui n'est pas crédible pour faire ce type de sondage-là. Pour faire un sondage comme ça, ça prend un organisme qui est absolument neutre. Ah. Action Climatique Québec, là, 1.5, ce n'est pas un organisme crédible. Les chiffres qui sont dans Le Devoir, c'est que 17% des Québécois croient que le changement est naturel, 14% croient qu'il n'est pas prouvé. Où les chiffres étaient de 8% naturel et 5% non prouvé. Moi, je crois que les chiffres que vous avez donnés sont probablement plus vraisemblables, dans les 40% peut-être de Québécois qui croient que c'est pas un problème. Enfin, c'est pas vraiment de ça que je vais parler
aujourd'hui. On parle de la COP, la nouvelle COP qui se déroule du côté de Dubaï.
Fait, on est rendu à la 28e grand messe annuelle qu'on appelle la COP 28. Hein? Elle est assez spéciale, cette COP-là, d'abord deux points de vue. Elle se déroule dans un pays de pétrole, hein? À Dubaï, dans les Émirats arabes. Même le président de la COP, c'est un pétrolier. Il y a 80 000 participants. Ça, c'est beaucoup plus que la COP 21 en 2015 à Paris, où on a élaboré les fameux accords de Paris. Il y a des pays, par exemple, comme le Brésil, qui ont envoyé 1300 délégués à cette COP-là. Chez 1300, combien est-ce qu'il y a de touristes, vous croyez?
Bien, ça, je l'ai dit, c'est plus un party qu'autre chose.
Bien, c'est ça. Comme l'année passée, c'était à Sharm el-Sheikh, en Égypte, au bord de la mer Rouge, un super de Club Med à 6 000 $ par soir pour chaque chambre. Il y avait beaucoup de délégués canadiens. D'ailleurs, il y avait M. Stephen Guilbeault qui avait amené sa délégation presque exclusivement formée de femmes des Premières Nations. Qui M. Guilbeault va-t-il amener avec lui cette année, ou a-t-il amené, parce qu'il est déjà rendu là, quand on sait qu'un billet d'avion, j'ai essayé d'en avoir un, Québec-Dubaï, en première classe, c'est 20 000 $
Aïe aïe.
Alors, je sais pas si M. Guilbeault va voyager en classe économique. Enfin, c'est une chose à faire. On lui demandera son compte de dépenses quand il reviendra au lendemain du 12 décembre.
Mais question pour toi, Rénal. Si on faisait la prochaine COP au Nunavut en plein hiver, est-ce qu'il y aurait du monde?
Il y aurait beaucoup moins de gens parce qu'il n'y a pas de plage là-bas, il n'y a
c'est
pas
ça.
De beau soleil. Vous voyez l'affaire de Dubaï, moi c'est un endroit que je rêve de visiter, je vais peut-être y aller un jour, mais pour le moment, j'ai tout ce que j'ai moyen de faire, c'est de me payer la conférence de Paris pour laquelle je vais partir demain. Là. Je m'en vais à Paris pour notre Assemblée générale annuelle de l'Association des climato-réalistes dont je fais partie du comité scientifique. Bon. Essentiellement, dans ces conférences COP-là, tout ce qu'on veut faire, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour réduire, ce qu'on vise, là, c'est d'avoir une augmentation de température qui ne dépassera pas 1,5 degré Celsius au tournant du prochain siècle. Donc, ça passe évidemment surtout par des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Et ce qu'on vise également, c'est un net zéro, c'est une carboneutralité totale pour l'année 2050. Puis je vous ai déjà donné des chiffres à savoir combien ce que l'effort canadien contribuait de diminution de température pour l'ensemble de la planète. C'est ridicule. Mais ce sur quoi je veux attirer votre attention ce matin, c'est les tensions qui risquent d'y avoir puis qui commencent à se faire sentir entre le Nord et le Sud dans cette conférence-là.
Ah,
le
oui?
Sud se fait mener en bateau à l'heure actuelle, ou okay. pour dire en québécois, se fait passer un beau sapin. Quels sont les 10 pays les plus gros émetteurs à l'échelle mondiale là, de CO2? Entre 1850 puis 2021, c'est d'abord les États-Unis, 20,4% des émissions, c'est des États-Unis, suivi par la Chine, 11,4%, mm-hmm. la Russie, 6,9%, puis nous autres, le Canada, on émet environ 2,6% de toutes les émissions de gaz à effet de serre de la planète. Donc, on n'est pas parmi les plus gros pollueurs, mais on est parmi les grands émetteurs si on se compare à certains pays d'Europe comme la France, par exemple.
Par capital.
Le Canada a convenu, au cours de ces COP-là, là, de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Il y a des écarts de mise en œuvre, par exemple, les politiques actuelles, les engagements qu'on a pris là, d'ici 2030 par rapport à 2015. Pour le Canada, on est en retard de 27% derrière nos promesses. Les États-Unis, de 19%. Et puis, la Chine, c'est assez curieux, la Chine a fait des gros efforts pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre.
Ah oui?
Ils ont passé à des énergies intermittentes. Mais la Chine, il y a un volet, un contre-volet à ça, c'est que pour pallier à l'intermittence de leur virage vert, il faut des centrales au charbon. Alors, ce sont les champions à l'heure actuelle de mise en œuvre de centrales au charbon. Mais à l'heure actuelle, moi, je pense que le gros des discussions là, ou des chicanes qu'il va y avoir dans cette COP-là, ça va être entre le Nord et le Sud. Les pays dits bien développés du Nord veulent imposer leur façon de fonctionner en matière climatique aux pays du Sud, qui sont la plupart du temps des pays émergents, des pays en voie de développement ou sinon des pays carrément pauvres. Donc, jusqu'à quel point les Africains vont se laisser mener en bateau par les pays du Nord, c'est à voir. Donc, il faut veiller à ne pas faire un certain dogmatisme écologiste, là, une espèce d'impérialisme écologiste envers les pays d'Afrique. L'Afrique, c'est énorme. C'est un continent. L'Afrique, c'est 1,3 milliard d'habitants. Puis sur ce 1,3 milliard-là, il y en a 600 millions qui n'ont toujours pas d'électricité.
Hey.
C'est important, ça.
C'est la moitié, là. Ouais. Presque la moitié.
C'est la moitié. Et puis, beaucoup de ces gens-là meurent à chaque année par un phénomène qu'on appelle le « dirty cooking ». Vu qu'ils n'ont pas l'électricité, ils font à manger à l'intérieur de leur maison, sur des réchauds, au charbon, au bois, ou à toute matière combustible, comme j'ai même vu, moi, au Yémen, des excréments humains séchés servir de combustible pour faire à manger. Hein?
Ah, ouais.
Donc, le « dirty cooking », ça tue quasiment 2 millions de personnes à chaque année, surtout en Afrique, aussi en Inde, aussi en Chine. Donc, il y a eu un sommet africain à Nairobi sur le climat au mois de septembre, et on a convenu qu'il faudrait porter les énergies renouvelables pour l'Afrique de 56 gigawatts en 2022 jusqu'à 300 gigawatts en 2030. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Pourquoi? Deux raisons. Parce que l'Afrique a besoin de façon urgente d'électricité. Beaucoup plus, ils n'ont pas le temps de construire ces affaires-là. Deuxième raison, c'est qu'ils ont des réserves colossales de gaz qu'on les empêche de mettre en valeur, supposément, pour combattre le réchauffement climatique. Il y a des réserves colossales de gaz. Récemment, moi, j'ai été sollicité par un groupe, je ne peux pas dire qui, parce que le projet n'est pas encore en force, là. dans un pays de l'Afrique australe où on veut construire une usine de liquéfaction de gaz naturel pour exporter le gaz naturel africain. En fait, c'est le projet GNL Saguenay qui se réaliserait en Afrique.
Ah, OK.
Incroyable.
Ouais. Alors, ça, c'est pas bête, hein? Et donc, il faut arrêter notre attitude dogmatique des pays occidentaux qui souhaitent empêcher l'Afrique d'utiliser son gaz. Et ça revient à lui interdire de s'industrialiser. Un pays ne peut pas s'industrialiser s'il n'a pas d'énergie. Hein?
C'est normal.
Donc, on leur met des bâtons dans les roues à l'heure actuelle. Moi, je pense que ça va être une des issues les plus importantes de cette COP28-là. L'Afrique, qui pourtant ne représente que 3% seulement des émissions mondiales cumulées de CO2. Hein? Je vous ai dit tantôt, ils sont 1,3 milliard d'humains, mais ils n'émettent que seulement 3% des émissions. On veut les empêcher, on veut les accabler, hein, pour les forcer à passer à des énergies intermittentes, des énergies vivantes. C'est pas humain de faire ça. C'est pas éthique de les forcer de faire des choses comme ça. Il faut considérer que l'Afrique a le droit de se développer comme ils veulent se développer et pas comme nous, on aimerait qu'ils se développent. Il va falloir qu'on arrête notre interventionnisme, là, notre impérialisme écologique sur l'Afrique.
Voilà.
Oui, ouais, puis de mettre l'emphase sur les bonnes choses et non pas de détourner l'attention sur ce qui n'est pas le problème.
Moi, je pense que, comme un missionnaire me disait quand j'étais là-bas au Burkina Faso, en Afrique, il n'y a pas de solution, mais il y a de l'espoir.
Ah, il faut en avoir, ça, c'est sûr et certain.
Bon. Oui. Au cours de notre prochaine rencontre, dans deux semaines, on fera peut-être un bilan de cette COP28-là. Mm-hmm.
Bien sûr, absolument.
Si bilan il y a.
Ouais. OK.
Merci beaucoup, Renald.
Bye-bye.
Très bonne journée.